On ne cesse de dire que la maladie du siècle est le mal de dos. Vous êtes d'accord? Écoutez ça. En France, 7 personnes sur 10 en souffrent. Waouh! C'est énorme. 7 personnes sur 10. Les causes sont multiples. Traumatisme, blessure, hernie discale, arthrite, arthrose, surpoids, sédentarité, mauvaise posture, etc. À la question « Quelle était selon vous la raison de votre dernier mal de dos ?», 46% des personnes interrogées répondent « une mauvaise posture ou position ». Le stress vient en deuxième position, 13%, puis le surpoids, 7%. Mais il y a une expression populaire qui dit bien ce qu'il en est. En avoir plein le dos. Hein? Cette expression exprime une lassitude. Être excédé, en avoir ras-le-bol. Si nous portons des soucis sans pouvoir s'en libérer, ils provoqueront des problèmes psychologiques et physiques. Ça, c'est très clair. Je le redis, si nous portons des soucis sans pouvoir s'en libérer, ils provoqueront des problèmes psychologiques et physiques, dont le mal de dos. Vous savez quoi? Plusieurs personnes se battent jour après jour avec un mauvais caractère, une dépendance, un sentiment de rejet et d'abandon, une mauvaise estime de soi, le perfectionnisme, la rancune, la jalousie, l'angoisse et même des maladies juste à cause d'une chose. Une blessure du passé non réglée. C'est tellement important d'être libéré des blessures du passé. Mais plusieurs n'arrivent pas à s'en sortir ou vont dans de mauvaises directions et restent esclaves de leur passé. Le titre du message ce matin s'intitule, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, « Libre des blessures du passé ». Je veux affirmer ce matin qu'il est possible d'être libre des blessures du passé. On l'a entendu dans un témoignage. Quand je parle de blessures du passé, certains se disent peut-être « Bon, ce message n'est pas pour moi ». Mais écoutez ceci. Ce n'est pas tout le monde qui est conscient des blessures, de ces blessures du passé. Les blessures du passé ne sont pas juste des choses extrêmes comme le décès, le divorce, l'adultère, l'emprisonnement, l'isolement, l'injustice flagrante, les persécutions, la méchanceté dans la famille ou à l'école, la maltraitance, la violence, l'alcool, l'inceste, enfin, le viol et bien d'autres choses encore. Les blessures du passé peuvent aussi venir de choses plus subtiles comme juste une seule parole négative. La médisance, les critiques, les brimades, les vexations, le mépris, la jalousie, l'incompréhension, la déception, la frustration, l'échec scolaire, le chômage, les parents perfectionnistes, autoritaires, légalistes, culpabilisants, protecteurs qui infantilisent et rendent dépendants ou les parents laxistes. Et puis j'ajoute une chose, certains sont conscients de leurs blessures, mais d'autres peuvent les avoir réglées ou pensent les avoir réglés. Pourtant, leur manière de vivre prouve que ce n'est pas le cas. Et j'ai entendu plusieurs fois des personnes dire « je pensais que c'était réglé ». D'autres ne sont tout simplement pas conscients que leur passé leur met tout le temps, sans cesse, des bâtons dans les roues, dans leur vie présente et dans ce qu'ils projettent pour l'avenir. Ce message est donc très important, même pour ceux qui ne se sentent pas concernés ou qui ne sont pas conscients des blessures du passé. Les amis, il est possible d'être libre des blessures du passé. La parole de Dieu nous dit ceci dans le psaume 147, verset 3. « Ceux qui sont abattus, il les guérit. » On parle de Dieu. « Ils pansent leurs blessures. » Et Jésus lui-même est celui qui accomplit pleinement cette parole et bien d'autres paroles sur ce même thème. Il dit lui-même ceci dans Luc, chapitre 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Vous entendez ici ? Annoncer aux captifs la délivrance et aussi libérer les opprimés. Connaissez-vous Kim Phuc Phan Thi ? Je ne sais pas si je dis bien le nom. Voici une photo très connue qui a choqué le monde entier. Kim, la petite fille au napalm, au centre d'une photographie de Nick Hutt, est devenue l'un des symboles de la guerre au Vietnam, l'un des symboles les plus forts de la guerre du Vietnam. Le 8 juin 1972, une bombe au napalm est tombée sur son village du Sud-Vietnam. La petite Kim, 9 ans, court sur une route, on la voit ici, elle est happée de dos par les flammes, ses vêtements sont réduits en cendres, sa nuque, son dos et son bras gauche sont en feu. Enfant puis jeune fille, sa souffrance est double. Celle physique est incommensurable et ne disparaît pas au fil des 14 opérations et greffes subies dans les années qui suivent. Mais elle est aussi profondément psychologique, sa souffrance. Voici ce qu'elle dit d'une voix très douce. « Je ressentais colère, amertume. J'étais sans espoir. Tout était négatif. J'ai pensé à mourir. Je savais que je ne pourrais pas vivre comme cela éternellement. J'avais tant de questions, tant de pourquoi. Pourquoi moi ? Pourquoi cela est-il arrivé ? Il me fallait des réponses. » Elle ne les trouve pas dans le caodaïsme, une religion syncrétiste dans laquelle elle a été élevée. J'étais dévote dans le sens très attaché aux pratiques de ma religion, mais à la fin de la journée, je restais sans paix, sans amour, le cœur vide. À 19 ans, elle se rend dans une bibliothèque, en sort tous les livres religieux et trouve parmi eux le Nouveau Testament. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit « Ce fut le tournant de ma vie. Ce fut le tournant de ma vie. » Aujourd'hui, Kim est capable de dire « Je ne peux pas changer le passé, mais avec de l'amour, je peux changer l'avenir. » 47 ans après avoir fait la une des médias internationaux, Kim se dit en paix avec elle-même, avec le monde, malgré les souffrances qui perdurent. Son secret, elle le dit clairement, c'est sa foi, une foi chevillée au corps, au cœur, à l'âme. Face à ses péripéties, sa volonté, ses souffrances, ces 4 dernières années, écoutez bien, elle a subi 11 traitements au laser. Pas la peine de lui dire qu'elle est forte. Ce petit bout de femme, élégante, rit et rétorque, c'est Jésus, ma force. C'est Jésus ma force. Son entourage avait prévenu, Kim ne souhaite pas parler de la guerre ni de politique. Mais écoutez ce qu'ils disent. Elle a tout pardonné. Elle s'est réconciliée avec la photo que nous avons vue. Elle appelle la personne Oncle Hutt, comme elle l'appelle affectueusement, qui longtemps lui a rappelé sa souffrance et la perte de son enfance. Elle a choisi de vivre et de transmettre. Les amis, par l'action de Dieu dans sa vie, Kim, aujourd'hui, a un fort impact dans la vie des autres. Elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO depuis 1997. Kim dirige la fondation Kim International, une organisation caritative tournée vers les enfants qui soutient des projets médicaux scolaires en partenariat avec d'autres instituts comme Médecins Sans Frontières ou Save the Children. Et vous savez quoi ? Ce que je viens de dire ici, ça vient d'arriver, ça. C'est nouvelle et c'est écrit sur Arte, les médias connus, on a son témoignage clair et on parle de son bouquin, son livre, je crois que c'est Sauvé de l'enfer. Elle parle enfin. Et elle dit surtout, sa foi en Jésus-Christ. Mes amis, il est possible d'être libre des blessures du passé. Mais malheureusement, tellement de gens laissent leur passé détruire leur présent et leur avenir. Même des chrétiens passent à côté de la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Alors, la première chose que je veux dire ce matin, c'est n'appliquons pas les mauvais remèdes. Nous avons tous tendance à appliquer de mauvais remèdes ou de mauvaises solutions à nos blessures du passé. Certains essayent de se libérer des blessures du passé en ne portant pas le tort de leurs blessures. Alors, ils cherchent à faire reposer la responsabilité des problèmes sur quelqu'un d'autre, la société, les circonstances, Dieu qui m'a fait comme je suis, mes parents, etc. D'autres essayent de se libérer des blessures du passé en passant leur temps à faire un tas de bonnes choses pour se faire pardonner de Dieu et des autres. D'autres essayent de se libérer des blessures du passé en ne faisant que le strict minimum quand certaines choses font surface, quand ils sentent certaines blessures remonter. Alors à ce moment-là, ils se disent « Bon, il faut vite que je fasse quelque chose pour guérir de ça sans traiter le problème de fond. » D'autres encore essayent de se libérer des blessures du passé en cherchant à fuir, en essayant de trouver d'autres mots pour ne pas assumer leur responsabilité de leur passé, de leur vie passée. Par exemple, un vol sera appelé un emprunt, un mensonge, une exagération. L'adultère devient juste une liaison. Mes fautes sont dues à ma nature, à mon caractère. C'est comme ça, c'est mes erreurs, c'est comme ça que je suis. Ce sont les circonstances qui en sont responsables. D'autres cherchent à fuir d'une autre manière en se donnant à fond dans des activités, dans leur travail ou dans des dépendances en tout genre, ce qui peut bien les détruire. D'autres encore essayent de se libérer des blessures du passé en trouvant des raisons convaincantes pour justifier leur attitude et supprimer l'angoisse de leur culpabilité. Je mens, mais c'est pour mon bien, c'est un pieux mensonge, j'ai des saintes colères, etc. D'autres encore essayent de se libérer des blessures du passé en expulsant dans leur inconscient un souvenir conscient qui les trouble. D'autres pensent qu'une bonne nuit de repos changera les choses ou le temps libérera tout simplement, tout seul, des blessures du passé. Mais vous comprenez bien que toutes ces solutions n'amènent pas à de total changement, guérison et libération. En tout cas, suivant la profondeur de la blessure. Les amis, nous avons besoin d'appliquer les bons remèdes. Appliquons les bons remèdes. Voici ce que Jésus a dit de libérateur dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32. « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, tous ensemble, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Alors, il ne parlait pas qu'aux hommes. Hein. Quand on voit hommes, ça ne veut pas dire que c'est juste les hommes, c'est aussi les femmes. Écoutez la suite et on veut le dire ensemble, c'est tellement fort. Ensemble, si donc le Fils, c'est le Fils qui vous donne la liberté, pardon, alors vous serez vraiment libres. Waouh, ça c'est des textes libérateurs. Ces textes sont super et même connus de milliers de chrétiens. Mais ce n'est pas tous les chrétiens qui vivent dans la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui se battent encore aujourd'hui avec des blessures du passé et qui ont besoin de savoir comment vivre dans la liberté en Jésus-Christ. Mes amis, en Jésus-Christ, nous devenons libres des liens du mensonge, de Satan, de la condamnation, du jugement, de l'ignorance spirituelle, de la mort spirituelle et du péché. Une telle œuvre puissante de Dieu en Jésus-Christ, une telle œuvre puissante de libération nous permet de vivre libre des blessures du passé. Mais que devons-nous faire pour vivre libre des blessures du passé? Voici trois clés que nous donne Jésus-Christ dans le texte que nous avons lu. Premièrement, reconnaître nos blessures et notre besoin de Jésus-Christ. Je ne peux pas être libéré de mes blessures du passé si je ne veux pas les reconnaître. Si je pense que
tout va bien. Il arrive même, comme j'ai dit tout à l'heure, que des personnes disent « je suis guéri » et qu'ils ne le sont pas vraiment. Nous avons besoin de venir avec humilité devant Dieu et dire « ben, voilà, je reconnais que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de guérison. Je reconnais mes blessures. Et je ne peux pas non plus vivre une guérison profonde et durable, je dis bien profond et durable, sans Jésus-Christ. Même si je peux faire toutes sortes de choses pour vivre une certaine libération, je dirais fausse libération, ce qui me libérera vraiment, c'est Jésus-Christ. Je répète le verset 36, « Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. » Et le « vraiment » est à souligner, puisqu'il y a des fausses libertés. On a l'impression de vivre une liberté, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément le cas. Celui qui rend vraiment libre, c'est Jésus-Christ. Ce texte est clair. Si je suis vraiment libre, je suis vraiment libre, pardon, si c'est Jésus qui me rend libre. En fait, seul Jésus-Christ a le pouvoir de rendre libre du péché et des blessures du passé. Ce ne sont pas les méthodes ni les moyens qui nous guérissent, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, bien sûr, il y a des non-croyants, des gens qui ne sont pas du tout croyants et qui ont pu mettre des choses en place qui font qu'ils ont vécu certaines guérisons. Il ne faut pas non plus dire c'est impossible d'être guéri de certaines blessures du passé sans Jésus-Christ. Et il y a des gens qui ont expérimenté le pardon, etc., la réconciliation, on a des relations, et qui ne sont pas chrétiens. Mais là, je parle ici à la fois de délivrance par rapport au péché, ce qui est, il n'y a que Jésus qui peut faire ça, mais aussi, on parle ici de délivrance par rapport à libération, par rapport aux blessures, de manière profonde et durable. C'est de ça que je parle. Reconnaître que c'est Jésus qui libère, cela doit nous pousser à prier Dieu. Crier à lui. À lui exposer nos blessures, nos souffrances, pour que Jésus-Christ nous guérisse et nous libère. Prier pour une guérison intérieure, c'est prendre le temps de dire à Dieu ce qui nous pèse, nous a fait mal, notre blessure, et ne rien lui cacher. Juste dire « Seigneur, guéris-moi », c'est insuffisant. Nous devons dire avec nos émotions à vif ce qui nous a blessés pour pouvoir vivre une guérison. Mais attention, pour vivre une libération, nous devons la désirer vraiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il arrive que des personnes se complaisent dans leur souffrance, car cela attire la compassion des autres. Ça leur permet d'exister, d'être valorisé. Et donc, normalement, je vais être guéri, mais en même temps, c'est le fait d'être dans mon problème. J'ai plein de gens qui se lamentent, qui viennent avec moi, qui me font du bien. Et donc, normalement, la personne n'a pas trop envie de s'en sortir. Une fois, Jésus avait dit à quelqu'un de malade, « Veux-tu être guéri ?» On se dit, mais c'est quoi cette question bizarre de Jésus? Mais ce n'est pas une mauvaise question. Est-ce que nous voulons vraiment être guéris? Une chose importante est de prier pour que Dieu nous montre ce que nous devons faire. Demandons à Dieu de nous montrer quel est notre véritable problème. Parfois, ce n'est pas clair. On sent une blessure, mais il y a de la confusion. Il y a besoin de demander à Dieu, « Éclaire-moi. Montre-moi le véritable problème et comment je dois prier. » Puis, quand nous prions ainsi, nous devons être dans le silence, prendre un temps pour l'écouter et être ensuite prêts à agir comme il nous le montrera. Pour vivre libre des blessures du passé, nous devons premièrement reconnaître nos blessures et notre besoin de Jésus-Christ. Deuxièmement, connaître Jésus et sa parole. Dans Jean chapitre 8, toujours le même texte, il y a ces mots « attachement à la parole » et « connaître la vérité ». Qu'est-ce que cela veut dire? C'est simple. Plus je grandis dans ma connaissance de Jésus, j'en suis attaché, et plus je grandis aussi dans cette connaissance, dans ma connaissance de la Bible, la parole de Dieu, plus je vis libre du péché et ce qui s'ensuit des blessures du passé. Connaître Jésus-Christ et la parole de Dieu, c'est vivre un fort attachement à Dieu, vivre dans son intimité, être de plus en plus touché par son amour pour moi. Il est important de comprendre cela. Plus je suis au contact de Jésus-Christ et de sa parole, plus je réalise la grandeur de l'amour de Dieu pour moi. Plus je suis au contact de Jésus-Christ et de sa parole, plus l'amour de Dieu me transforme. Il y a une puissance en Jésus-Christ qui transforme, guérit et libère. Plus je m'approche de lui, plus il y a transformation, guérison, libération. Une chose qui a un fort impact, un impact puissant quand nous nous approchons toujours plus de Jésus-Christ et de sa parole, je le répète, c'est son immense amour révélé. Se savoir aimer autant de Dieu, c'est libérateur. Je crois que la révélation la plus forte, la plus touchante et celle qui nous révèle encore mieux qui est Jésus-Christ, c'est sa mort sur la croix. Sa mort sur la croix pour toi, pour moi. Il nous exprime de la manière la plus forte combien il nous aime. Mes amis, l'amour de Dieu pour nous est le point de loin le plus important pour être libéré des blessures du passé. Rares sont les personnes qui disent « Je suis libéré des blessures du passé en Jésus-Christ » sans me parler de l'amour de Dieu qui les a soutenus dans leur libération. Je ne sais pas comment vous vivez votre relation avec Dieu et ça m'amène à vous parler là-dessus. Si vous n'êtes pas souvent touché par l'immense amour de Dieu, il y a un problème dans votre relation avec Dieu. Peut-être que pour vous, la relation avec Dieu, c'est du donnant-donnant. Je vais à l'église, t'as vu Dieu, je suis venu à l'église, donc demain, tu me donnes la moto que je te demande. Ou vous prenez Dieu pour quelqu'un qui est censé répondre à tous vos désirs, vos besoins, etc. Hein, tel le distributeur automatique, hein, je mets la pièce, je demande un coca et bam, le coca il est là, c'est bon, Dieu il est comme ça. Ou vous pensez que Dieu est tout le temps fâché après vous parce qu'il attend de vous toujours plein de pas d'obéissance, comme si la relation avec Dieu dépendait, était basée sur vos performances. Si je fais ça, Dieu va m'aimer. Si je fais ça, il va m'accepter. Si je fais ça, il va me bénir. Si je fais ça, il va répondre à mes prières. C'est encore le style donnant-donnant. Ou peut-être que vous pensez que Dieu est indifférent à votre vie ou à vos souffrances. Mais la Bible contredit totalement ces idées. La Bible nous dit ceci sur Dieu, notre Créateur, dans Jérémie 31, verset 3. C'est pour toi, ça. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Waouh ! Je t'aime d'un amour éternel. Ce texte nous dit que Dieu nous aime éternellement. Son amour pour toi, pour moi, n'a pas de fin. Il conserve pour nous sa bonté, sa bienveillance, sa miséricorde et son affection. Il nous attire par son amour irrésistible. Il reste profondément attaché à toi, à moi. Peut-être que vous avez l'habitude d'entendre « Dieu nous aime ». Mais je veux te dire ce matin que ce n'est pas juste « Dieu nous aime », c'est « Dieu t'aime », toi personnellement. Tu regardes ce qui s'est passé à la croix, dis-toi que ça, ce n'était pas juste pour… Juste, il a aimé le monde, voilà. Non, oui, ça c'est vrai, mais il a fait ça pour toi. Il y a un côté tellement individuel. Personnel. Dieu est venu en Jésus-Christ et il a donné sa vie pour toi. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus-Christ qui a souffert, qui est mort sur une croix pour toi et pour moi afin de nous donner la vie éternelle. Et sa mort sur la croix, c'est pour l'intimité avec lui, pour notre bonheur dans sa présence, pour nous sauver du péché, de la mort, de l'enfer, pour notre bonheur dans sa présence, pour nous sauver. Et pour nous libérer de toutes les blessures du passé. Les amis, normalement, plus nous nous approchons de Jésus-Christ et de sa parole, plus nous sommes touchés et transformés par son amour. Et si ce n'est pas le cas, si vous ne vivez pas cela, alors vous avez besoin de vous rappeler sans cesse
que Dieu vous aime. Peut-être relever ce matin Jérémie 31, verset 3, et se le répéter toute la semaine. C'est un peu, je fais un peu le médecin qui donne un médicament. Alors vous prenez ce verset, et trois fois par jour, vous le répétez. Non, je rigole. Mais c'est tellement important de se rappeler l'amour de Dieu, car Satan fait tout son possible pour nous détourner de cela. Pour que la vie chrétienne se résume à « je dois faire ci, je dois faire ça, je dois aller à l'église, je dois prier, je dois lire la Bible, je dois... » C'est tout le temps ça, et puis la vie chrétienne se résume à ça. Dieu ne nous a pas créés pour ça, Jésus-Christ n'est pas mort pour ça. Tout se résume dans la Bible à « aime ton Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même ». L'amour, une relation d'amour. Je vais à l'église parce que j'aime Dieu. Je lis la Bible parce que j'aime Dieu. Je prie parce que j'aime Dieu. J'ai envie de partager son amour parce que je l'aime. Tout ce que je fais, c'est parce que je suis aimé de Dieu. Alors rappelle-toi l'amour de Dieu. Passe des temps dans la louange. Demande à Dieu de te révéler son amour. Cherche à mieux le connaître. Fais de la prière, de la lecture de la Bible, des temps d'intimité, de relation personnelle avec Dieu. Si Jésus nous invite à nous approcher toujours plus de lui et de sa parole, c'est parce qu'il nous aime. Si je regarde à ma propre vie, je peux affirmer que c'est l'amour de Dieu qui m'a gardé malgré l'absence de mon père qui est parti à ma naissance. Il est parti de ma famille. Pas dans le sens qu'il est mort, mais il est parti, il a fait un pacte avec Satan, il a demandé à ma mère, viens, on y va, on va de l'autre côté, et puis après on reviendra à Jésus-Christ. Ma mère a dit non, non, non. Elle a fait une prière et mon père était dérangé, il est parti de la maison. Elle a dit, ici, il y a une puissance négative. Ce serait plutôt l'inverse, hein, la puissance négative. Mais voilà, il est parti à ma naissance et Dieu m'a gardé. J'allais, comme je l'ai souvent dit ici, j'aurais été délinquant, c'est clair. La direction que je prenais, sans l'amour de Dieu, je serais allé dans une mauvaise direction. Mais c'est l'amour de Dieu qui m'a aidé, qui m'a transformé, qui m'a aidé à pardonner à mon père malgré toutes les choses terribles qu'il a fait subir à ma mère. C'est l'amour de Dieu qui m'a sauvé, qui m'a transformé, qui a pardonné mes péchés. C'est l'amour de Dieu qui m'a permis de me reconstruire, de grandir, de guérir de mon passé. C'est l'amour de Dieu qui m'a poussé à aimer les autres, à faire de moi une bénédiction pour les autres. Si aujourd'hui je peux sourire, je suis dans la joie de servir Dieu, je suis dans la joie d'appartenir à Dieu, si quand je sors de chez moi, j'aime dire bonjour aux gens, j'aime les gens, c'est parce que je suis aimé de Dieu. Son amour bouleverse ma vie jour après jour. Il libère des vies. L'amour de Dieu est puissant, les amis, pour nous guérir et nous libérer des blessures les plus profondes. Soyons toujours plus attachés à Jésus-Christ, à sa parole, pour expérimenter l'amour de Dieu, sa libération dans notre vie. Troisièmement, faire des pas d'obéissance. On pourrait dire des pas d'obéissance dans le sens où nous sommes reconnaissants pour ce que Christ a fait pour nous. Les pas d'obéissance sont importants. Les mots « attachement à la parole » veulent aussi dire « obéissance » et « mise en pratique de la parole de Dieu ». Jésus, dans sa prière à son Père céleste, avait lui-même dit dans Jean chapitre 17, verset 17, « Consacre-les », on pourrait dire « sanctifie-les » ou « fais qu'ils soient entièrement à toi par la vérité ». Ta parole est la vérité. Le chemin de purification et de libération passe par l'obéissance à Dieu. La parole, nous l'écoutons, et la parole de Dieu, elle nous révélera qui est Dieu, et elle nous montrera aussi comment vivre pour lui. La parole de Dieu nous montrera aussi ce qui ne va pas dans notre vie. Elle mettra le doigt là où ça fait mal. Elle nous révélera quand nous devons vivre le pardon dans des problèmes de relation. Lâcher prise dans des situations difficiles. Vivre en paix quand il y a des tensions. La parole de Dieu nous montrera toujours des chemins de libération pour vivre non seulement libre du péché, du mal, des mensonges de Satan, mais aussi libre des blessures du passé. Pour vivre libre des blessures du passé,
il y a un chemin incontournable. C'est le pardon. Pour vivre libre des blessures du passé, nous devons non seulement venir à Jésus, le prier pour être guéri, expérimenter son amour, mais aussi faire des pas d'obéissance. Et ce pas d'obéissance fort dans nos blessures, c'est de passer par le chemin du pardon. C'est indispensable. Le pardon peut être vécu à différents niveaux. Il y en a quatre. Demander pardon à Dieu pour nos fautes. Il arrive que même si nous avons été blessés par quelqu'un, eh ben, la manière que nous avons réagi et la manière que nous avons construit notre vie fait que nous avons péché devant Dieu et nous devons lui demander pardon. Deuxième niveau, se demander pardon à soi-même. Cela veut dire ne plus nous en vouloir pour nos mauvaises actions, nos mauvais choix, nos échecs passés. Il y a des personnes qui vivent encore avec des échecs passés. Et cela demande de se pardonner à soi. C'est un peu bizarre de dire ça, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça. Mais combien de personnes peuvent encore avoir ce boulet et parce qu'ils se disent « mais Manu, tu es mauvais parce que tu as fait ça dans le passé. » Et en étant comme cela, nous gardons ça et nous n'arrivons pas à vivre l'aujourd'hui et à vivre l'avenir avec joie. Le troisième niveau, pardonner à celui qui nous a blessés. Et pardonner à celui qui nous a blessés, ça paraît très raccourci. Il y a des gens qui disent « mais non, je ne pourrai jamais faire ça ». Et beaucoup de gens ne comprennent pas le sens du pardon. Le pardon ne veut pas dire « hey, tu m'as blessé, c'est pas grave ». Il y a des personnes qui pensent ça. Mais on n'est pas en train. Dieu, quand il nous demande de pardonner, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Pardonner, c'est reconnaître notre blessure. C'est dire à l'autre, tu m'as blessé. Ce n'est pas l'insulter. Ce n'est pas rentrer dans du conflit encore, mais c'est de commencer à dire à la personne ce qui nous a blessé, vraiment. Et ensuite, de dire, maintenant, je te pardonne dans le sens que je ne t'en veux plus pour ça. Je me libère moi-même. Le non-pardon nous maintient en prison, comme dans une prison. C'est-à-dire que plus nous maintenons la rancune envers quelqu'un, plus nous maintenons de la haine envers quelqu'un, plus cela nous maintient dans... On a du mal à se libérer de cela, on n'est pas en paix. Quand on y repense, il y a des pics qui nous reviennent. Et cela ne nous aide pas à vivre l'aujourd'hui et à rêver pour l'avenir. Combien nous avons besoin d'apprendre à pardonner en reconnaissant le tort des autres, en reconnaissant ce qui nous a blessés, pour ensuite dire « j'abandonne tout désir de vengeance ». J'abandonne tout désir de vengeance. Je n'attends pas que l'autre fasse quoi que ce soit pour rétablir cette relation. Parce qu'en attendant cela me détruit. Et en passant, souvent je dis à des personnes qui ont du mal à le vivre, d'écrire sur un papier, c'est quelque chose d'assez pratique, mais d'écrire sur un papier tout ce qui vous a fait mal de la personne qui vous a blessé, devant Dieu. Et ensuite, demander de pardonner cette personne, peut-être à haute voix ou en l'écrivant, et ensuite de déchirer ce papier pour dire « maintenant c'est pardonné, c'est fini, je ne lui en veux plus ». C'est un moment à passer dans la présence de Dieu, peut-être c'est un moment où vous serez dans les larmes, mais un moment de libération. Et dernier niveau de pardon, c'est reconnaître nos torts envers l'autre. Parce que quand nous avons été blessés, souvent nous blessons l'autre. Et ce n'est pas parce que nous avons été blessés que nous n'avons pas tort. Il y a des gens qui disent « mais lui, il a fait ça, donc comment je peux... » lui encore réparer quoi que ce soit, lui dire que j'ai fait quelque chose de mal, puisque c'est lui qui m'a provoqué. Oui, mais tu es quand même responsable de ce que tu as fait après. Et donc, nous devons aussi demander pardon pour les personnes que nous avons blessées. Je me rappellerai toujours cette personne. On est proche d'un culte et je dis à cette personne, écoute, est-ce que tu peux inclure ça dans le culte? Et la personne a explosé. Vraiment en colère. Il y avait des gens qui étaient autour et j'étais très mal. n'est pas arrivé ici, ne vous inquiétez pas. Donc, il n'y a personne qui... personne qui descend de sa chaise. Non, tout va bien. Et donc, cette personne a explosé. Et puis, j'étais mal. Et puis, le pasteur avec qui j'étais, je lui en parle. Et il me dit, Manu, c'est à toi de venir vers la personne. Parce que si elle a été blessée, elle a parlé comme ça, c'est parce qu'elle a été blessée par toi. Pour moi, ce qu'on a vécu, c'est clairement elle le problème. Celle qui a explosé, je lui ai demandé, est-ce qu'on peut ajouter ça au culte ? J'avais, il n'y avait aucun problème. Elle pouvait me dire non. Mais le fait d'avoir explosé, je dis, mais non, c'est elle le premier problème. Mais en soi, d'une certaine manière, j'ai quand même actionné la chose, vous voyez ? Et je suis venu vers cette personne et je lui ai demandé pardon. Pardon parce que, en faisant ce que j'ai fait, je l'ai peut-être mal dit, et cela t'a blessé. Et en faisant ça, ça rétablit tout de suite la relation. Combien on a besoin d'apprendre à vivre dans l'humilité, les amis. Pour pouvoir, même quand on se dit, mais c'est moi qui a été blessé, pouvoir dire, mais moi j'ai eu quand même très certainement mes torts dans ce qui s'est passé. Alors, il y a d'autres situations où c'est différent, on est d'accord. Mais dans cette situation et dans certaines situations, ou plusieurs, il y a souvent nos torts à nous. Dans la manière que nous réagissons, ou que nous agissons envers les autres. Mais le chemin du pardon peut être très difficile, les amis, suivant la profondeur des blessures. Et peut-être certains ou plusieurs sont là et entendent ce que je dis et se disent « Mais Manu, c'est impossible, je n'y arriverai jamais. » Devant notre incapacité à accorder le pardon ou à recevoir le pardon, demandons l'aide à Dieu qui nous donnera la force d'y arriver. Le témoignage de Corrie ten Boom nous rappelle que c'est possible de pardonner l'impardonnable par la puissance de Dieu. Corrie ten Boom, certains la connaissent ici ? Personnellement, non, je rigole. Mais voilà, en tout cas, peut-être vous avez entendu son témoignage, quelqu'un qui a écrit aussi un livre fort, et il y a même un film là-dessus. Corrie ten Boom était une chrétienne hollandaise. Son père était horloger, elle et sa sœur Betsy étaient célibataires. La famille ten Boom vivait dans une grande et belle demeure à Haarlem, c'est en Hollande. Cette famille ordinaire a choisi d'ouvrir sa porte, la porte de leur chez-eux, à ceux qui étaient traqués par la furie nazie et leur fournir une cachette secrète. Prenez les juifs chez eux. Mais la famille est dénoncée à la Gestapo. Corrie, cette femme, survivra seule aux tourmentes de la guerre et aux tortures du camp de concentration. Après la guerre, malgré un passé douloureux, elle a voyagé dans plus de 60 pays à travers le monde pour y répandre l'amour de Dieu et parler du pardon. Donc, une femme guérie de ses blessures du passé. Elle a également fondé des camps de réfugiés afin d'apporter l'amour et le réconfort aux cœurs anéantis et brisés par l'atrocité de la guerre. Mais écoutez ce qui s'est passé. Un jour, Corrie ten Boom s'est trouvée face à l'un des anciens gardiens du camp de concentration où elle avait été enfermée avec sa sœur. Et en plus, sa sœur était morte dans ce camp. Elle se retrouvait face à cet homme après une réunion. Il implorait son pardon. Et elle ne pouvait lui accorder tout de suite. On peut bien la comprendre. À l'intérieur, elle devait se dire, mais c'est un meurtrier qui est devant moi. J'ai perdu ma sœur. Elle voulait néanmoins être guérie de sa haine. Et le dit au Seigneur dans son cœur. Seigneur, et voici la prière que je vous invite à faire si vous avez du mal à pardonner. Seigneur, non, tu restes sûr. Seigneur, je veux pardonner, mais je ne peux pas. Par un acte de sa propre volonté, elle tendit sa main à son ancien bourreau et lui pardonna. Elle dit qu'au moment où elle tendit la main, où elle disait « Je veux être guérie de ma haine. » Il est dit, l'amour de Dieu l'inonda comme un fleuve, et cet amour de Dieu passa au travers de sa main vers son ancien ennemi. Corrie ten Boom avait fait le premier pas. Dieu avait fait les autres. Mes amis, si vous n'arrivez pas à pardonner, criez à Dieu et faites le premier pas. Comme Corrie ten Boom et bien d'autres, même ici, qui pourraient en témoigner, Dieu vous donnera la force d'y arriver. Je vais conclure. Il est possible d'être libre des blessures du passé. Reconnaissons nos blessures et notre besoin de Jésus-Christ. Grandissons dans notre connaissance de Jésus et de sa parole pour être connectés toujours plus à son amour, à sa grâce, à sa présence. Troisièmement, faisons des pas d'obéissance. Et on parlait de ce pas fort dans nos blessures qui est de vivre le pardon. Il arrive que suivant la profondeur de nos douleurs, nous ayons besoin d'aide, de l'aide d'une personne. Sachons faire appel à un chrétien mûr ou à un spécialiste. On l'a entendu dans le témoignage de Frédéric, il a dû voir un spécialiste pour l'aider. Mais ne restons pas seuls. Un spécialiste pourra nous aider à voir plus clair et à démêler les nœuds du passé. Guérir des blessures du passé, ce serait faux de penser que c'est en un jour. Vous avez vu, j'ai parlé de Corrie ten Boom. Elle avait vécu une certaine libération puisqu'elle témoignait de l'amour partout, elle témoignait du pardon. Mais le jour où elle est face à son bourreau, on voit qu'il y avait encore un besoin de guérison. Mais elle était déjà sur un chemin de guérison, puisqu'elle était déjà une bénédiction pour les autres. Donc la guérison est un processus. Ça prend le temps. Parfois ça va vite, parfois ça prend du temps. Mais Dieu, par Jésus-Christ, nous donne la victoire. J'aurais encore plein d'autres choses à dire mais sur ce thème ce matin, mais ça prendrait tellement de temps. Mais je me réjouis pour la série de messages et d'études que nous allons avoir bientôt, qui s'intitule « Ma nouvelle identité ». Venez, soyez présents, ça commence déjà dès maintenant, dans cette semaine, dans les groupes, mais aussi dans les prédications. Nous aurons des clés ici pour vivre libre en Jésus-Christ. Je vais prier. Dieu notre Père, merci infiniment parce que tu as tout accompli en Jésus-Christ pour que nous soyons libérés des liens du péché, du mensonge, de Satan, de la condamnation, du jugement, de l'ignorance spirituelle, de la mort spirituelle et des blessures du passé. Tu connais toutes nos blessures. Révèle-nous s'il y a des blessures non réglées. Et agis en chacun de nous pour que nous soyons guéris et libérés des blessures du passé. Merci pour ces témoignages que nous avons entendus qui nous rappellent que quand nous vivons des guérisons, non seulement nous vivons libres, mais tu te sers de nous, tu agis puissamment en nous pour être une bénédiction pour les autres. Merci d'agir puissamment en nous pour ta gloire et notre bonheur en toi. Amen.